Premier jour de l'année, bonne année 2020 à tous, qu'elle soit pleine de résolutions, écolo bien sûr, et surtout riche en petites joies et grandes victoires du quotidien, en vivacité d'esprit et en remise en question. Tous mes vœux, les plus sincères à vous, auditeurs de France Inter, en plus ça rime. Nous allons migrer aujourd'hui dans la Terre au carré, s'envoler dans cette première demi-heure, en s'accrochant aux ailes des milliards d'oiseaux migrateurs. Ils sont impactés, on le sait, par le dérèglement climatique, mais à quel point, quel stratagème trouvent-ils pour subvenir à leurs besoins? Nous allons voyager dans les airs avec l'ornithologue Maxime Zouka. Toutes vos questions sur la migration des oiseaux au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Migration ensuite vers la Guadeloupe dans vos solutions pour la planète pour réaménager des berges de rivières beaucoup trop bétonnées et si on replantait des arbres plus tôt. Et puis, nous nous faufilerons à travers les nuages en fin d'émission pour découvrir l'Amazonie à travers les yeux d'une géographe et directrice d'une maison d'édition, l'Amazonie qui nous semble si lointaine, mais dont les préoccupations nous sont si proches. Cette première Terre au carré de l'année 2020 est réalisée par Étienne Bertin, avec, à la technique, Michel Bessiquian et Stéphane Beaujat. Bienvenue.
Élodie Font. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Maxime Zouka.
Bonjour.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2020 ?
Que les oiseaux migrateurs se portent un petit peu mieux que ces dernières décennies.
C'est un beau vœu pour 2020. Maxime Zouka, vous êtes ornithologue, vous êtes co-responsable du pôle écologie du mouvement Place Publique. Vous avez également co-écrit avec Léna Mazilu et Johan Guény « Écoute les oiseaux » aux éditions Albin Michel Jeunesse, un très très beau livre pour apprendre à reconnaître le chant des oiseaux et « La migration des oiseaux » aux éditions Sud-Ouest.
Just one thing. Love comes.
Je ne sais pas si vous reconnaissez cette bande-son, celle du peuple migrateur.
Oh, ça fait longtemps, effectivement, que je l'ai vue.
Ça fait quelques années, le peuple migrateur. Maxime Zouka, pourquoi les oiseaux migrent?
Ah, comme ça, direct.
Allez, alors, on commence.
Alors, les oiseaux migrent, c'est vraiment une question de ressources alimentaires. Pas tant pour fuir le froid que pour profiter de ressources alimentaires qui varient dans le temps et dans l'espace en fonction des saisons. Et d'ailleurs, plutôt que pour fuir l'hiver, moi j'aime plutôt dire que les oiseaux migrent pour profiter de l'été. Pour profiter de l'été, notamment dans les régions boréales, où pendant 2-3 mois, il y a un ensoleillement quasi permanent avec des insectes en abondance. Mais un environnement qui est exploitable que trois mois de l'année. Donc la migration, ça permet aux oiseaux d'aller profiter de cet été, de se reproduire dans de très bonnes conditions là-bas.
En fait, ils essaient d'être toujours au printemps ou en été, si on caricature un peu.
Il y a même un oiseau, la sterne arctique, qui vit l'été dans le pôle nord et l'hiver dans le pôle sud. Donc elle a le soleil de minuit quasiment toute l'année. C'est l'oiseau qui voit le plus le jour de tous les êtres vivants.
Alors on le sait, le dérèglement climatique change ces migrations. Qu'est-ce que ça change justement, précisément?
Alors, ce que ça va principalement changer, c'est que la végétation avance au printemps, donc les émergences d'insectes ou de proies, en tout cas, dont se nourrissent les oiseaux, émergent également plus tôt, et donc les oiseaux migrateurs vont tenter de revenir de plus en plus tôt. Vont tenter. Certains y arrivent, d'autres non. Et c'est là qu'est le sujet. Ceux qui migrent pas trop loin arrivent globalement à se caler à peu près avec l'avancement du printemps. Et ceux qui hivernent très très loin en Afrique ont beaucoup beaucoup d'autres contraintes qui fait qu'ils arrivent à avancer un petit peu leur date de retour. Mais par contre, on constate chez un nombre assez important d'espèces que l'écart entre leur date d'arrivée et l'émergence de leur proie principale s'accroît.
Ça veut dire que un oiseau qui voudrait arriver le 3 mars, par exemple, parce que c'est pile à ce moment-là qu'il va pouvoir trouver de quoi se nourrir et de quoi nourrir potentiellement ses petits, voilà. S'il arrive le 3 mars, mais que en fait l'arbre en question sur lequel il voulait aller piocher sa nourriture a commencé à apparaître, enfin a commencé à réapparaître 10 jours avant, c'est trop tard.
C'est ça. Globalement, on va dire en moyenne, à l'échelle de l'Europe et de l'Amérique du Nord, les oiseaux ont avancé de 2 jours tous les 10 ans leur date de retour. Et par contre, le printemps, ça va dépendre évidemment des endroits, mais pour schématiser, il a avancé de 6-7 jours. Et du coup, c'est pas assez. Clairement, c'est ce qu'on appelle la dette climatique des oiseaux. Alors, il y a certaines espèces qui arrivent à avancer suffisamment leur migration, mais ça a des coûts. typiquement, il y a un oiseau qui vit en bord de mer qui s'appelle la barge rousse, qui niche dans l'Arctique. Et l'Arctique, c'est là que l'avancement est le plus précoce. La fonte des neiges a lieu 2 semaines auparavant, 2 semaines plus tôt qu'il y a 20 ans. Et du coup, les petites mouches dont se nourrissent les barges, dont nourrissent leurs jeunes les barges, les petites tipules, elles arrivent aussi beaucoup plus tôt. Et du coup, les barges parviennent à arriver à temps sur les sites de reproduction arctiques, mais au prix d'une halte migratoire réduite dans la mer des Vadden au nord des Pays-Bas, qui est la halte migratoire pendant laquelle elles vont reconstituer les réserves de graisse suffisantes pour faire un long vol de 5000 km jusque dans les zones arctiques où elles nichent, dans l'Arctique sibérien. Et du coup, elles arrivent en moins bonne santé, en moins bonne condition physique. Et finalement, ce prix de l'arrivée plus précoce se paye plus tard par une moindre survie des adultes. Et du coup, la population de bergers rousses, malgré tout, diminue.
Et comment les oiseaux peuvent savoir, quand ils sont à 5000 km de là, qu'il faut rentrer plus tôt?
Alors, c'est une vraie question. Il y a un embryon de réponse où l'on s'est aperçu avec les hirondelles rustiques étudiées en Afrique qu'il y a une forme de corrélation climatique finalement qui existe également entre certaines zones d'Afrique et certaines zones d'Europe. Et on suppose même qu'elles sélectionnent, qu'il y a une pression de sélection pour que les hirondelles rustiques hivernent davantage dans les zones corrélées climatiquement avec l'Europe et qu'en tout cas celles-là auront plus de facilité à avancer leur migration parce que un hiver très pluvieux et globalement doux en Afrique, va être corrélé avec un printemps précoce et du coup ces individus arriveront plus facilement plus tôt que celles qui hivernent dans des zones plus arides. Il y a ça et en même temps il y a des pressions de sélection inverses où les hirondelles doivent également réduire leur durée de migration et donc ont une pression pour hiverner plus au nord dans des zones plus arides. Donc voilà.
C'est un peu compliqué. En fait, on ne sait pas exactement ils peuvent avoir un sens comme ça de là où exactement où ils doivent être.
C'est ça. Soit il y a de l'évolution, c'est-à-dire que les oiseaux qui arrivent le plus tôt parce que leur programme interne qui leur donne une date de départ et sélectionne les individus avec une date plus précoce. On sait aussi que les oiseaux, il y a beaucoup de plasticité, c'est-à-dire de variations liées aux conditions environnementales dans la décision. Et lorsque les conditions environnementales sont favorables, avec beaucoup de pluie, beaucoup de nourriture, elles vont partir plus tôt ces années-là. Et le sujet, c'est est-ce que ça s'est corrélé avec le climat en Europe? Et donc il y a des zones en Afrique où ça l'est, et donc ces espèces qui hivernent sur ces zones, ça se passe moins mal pour elles, mais celles qui hivernent dans des zones où les sécheresses augmentent, par contre, arrivent généralement trop tard, et en plus en mauvais état physique.
Justement, vous parlez du physique, Maxime Zouka. J'ai lu dans une publication récente aux États-Unis, basée sur l'étude de 70 000 oiseaux, donc une grosse étude sur pas mal d'années en plus, qui montre que avec le dérèglement climatique, les oiseaux rapetissent, sont de plus en plus petits et ils ont des ailes plus grandes. Donc en plus, ils essaient de s'adapter. J'ai trouvé ça fascinant.
Ouais, alors là, pareil. Est-ce que c'est évolutif ou non? On ne sait pas. Il y a une règle qui s'appelle la règle de Bergman, qui dit que plus les animaux, et ça vaut pour les oiseaux en particulier, nichent au nord dans les pays froids au sein d'une même espèce, plus ils sont gros. Et donc du coup, c'est une question de thermodynamique du corps. Et on s'attend assez logiquement, finalement, si les températures globales augmentent, à ce que les oiseaux diminuent de taille. C'est selon cette règle. Et c'est ce qui s'est observé. Il y a plusieurs études qui l'ont déjà montré, mais là, l'originalité de celle-ci, c'est que ce sont uniquement sur des oiseaux migrateurs qui ont été trouvés morts à Chicago, percutés contre les façades d'un building pendant 25 ans. Et donc on montre que même les oiseaux migrateurs sont concernés. Et par contre, voilà, il y a cette adaptation étrange de la longueur d'aile qui viendrait compenser cela. Alors, il y a une autre règle qui est la règle d'Allen. Bref, il y a aussi une question thermodynamique qui peut expliquer cette longueur d'aile accrue. Mais surtout, il est avantageux pour des oiseaux qui font de longues migrations d'avoir une aile longue, tout simplement.
Longue migration, on pense à combien de kilomètres?
Alors, 6-7 000, mais nos hirondelles, par exemple, en tout cas celles de Scandinavie ou celles d'Europe de l'Est, migrent 10-12 000 kilomètres jusqu'en Afrique du Sud.
Parce qu'il y a différents types de migration.
Oui, alors ensuite, on a aussi des oiseaux très paresseux qui vont migrer quelques centaines de mètres depuis les hauts sommets vers la vallée, tout simplement.
Vraiment, quelques mètres.
J'exagère, quelques kilomètres, mais on a des migrations altitudinales. Après, la majorité de nos oiseaux en France, on a deux grandes catégories. On a les oiseaux qu'on appelle migrateurs courte distance, qui vont hiverner le long des rivages de la Méditerranée, principalement, qui vont se nourrir, ou même qui restent hivernés en France tant qu'il n'y a pas de neige et de glace. Donc, ils vont se nourrir de graines, éventuellement de petits insectes, qui vont migrer 2-3 000 km maximum. Et puis, on a des migrateurs au long cours, qui vont franchir le Sahara et qui hivernent en Afrique tropicale. Et là, c'est 6-7-8 000 km.
La plupart des migrations, c'est du nord vers le sud, c'est ça?
En Europe, mais si vous habitez au Chili, c'est du sud vers le nord.
Ah oui, parce que du coup, le temps de l'été, évidemment, est inversé.
Et ça, c'est incroyable, parce que je rebondis là-dessus, parce que bon, l'hirondelle rustique, je garde mon fil, parce que c'est un oiseau qu'on connaît tous. Il y a une population qui s'est installée, parce que l'hirondelle, il y en a dans le monde entier, et les hirondelles nord-américaines hivernent en Amérique du Sud. Mais il y a une population, il y a 30 ans, qui s'est installée en Argentine, et ces hirondelles argentines, maintenant, ont développé une migration australe, inverse, elles vont hiverner au Venezuela, au Brésil. En quelques années, elles ont complètement modifié leur, inversé leur trajectoire migratoire.
2 milliards, j'ai pas pourquoi j'ai mis 2 milliards, des milliards, beaucoup plus que 2 milliards, chaque année quittent l'Europe et l'Asie vers l'Afrique en traversant le Sahara. Des milliards, mais deux fois moins qu'il y a 50 ans, Maxime Zucker.
Oui. Alors, les oiseaux migrateurs, et c'est ça, ça vaut pour le système Europe-Afrique, ça vaut aussi pour le système américain, pas mal d'études qui le montrent, et c'est effectivement, alors on a une baisse globale des oiseaux, de la biodiversité, mais les migrateurs au long cours sont les plus concernés. Alors, le changement climatique joue un rôle certain là-dessus, les dégradations des conditions d'hivernage dans certaines régions d'Afrique, notamment l'Afrique de l'Est, avec des sécheresses accrues, mais également des sécheresses accrues pendant les trajectoires de migration, et avec finalement des pressions de sélection contradictoires des oiseaux qui doivent arriver plus tôt en Europe, à cause de ce dont on parlait au début, les printemps plus précoces, mais parfois qui sont amenés à partir plus tard d'Afrique parce que les sécheresses sont plus longues, et donc...
Oui, donc injonction contradictoire.
Injonction contradictoire. En plus, les oiseaux, ils peuvent pas décider de partir plus tôt comme ça. En hiver, ils muent aussi. Donc, ils peuvent pas à la fois muer et dépenser l'énergie à migrer. Donc, il y a un temps incompressible passé en hiver qui ne leur permet pas d'avancer suffisamment leur distance de migration, leur départ en migration. Et en plus, comme l'aire de migration, l'aire de nidification des espèces s'étend vers le nord, la distance de migration pourrait augmenter. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui sont compliquées pour les migrateurs. Et en plus, nos migrateurs, ce sont souvent des insectivores. Et ça ne vous a pas échappé. Les insectes en Europe, on a beaucoup parlé du déclin des insectes. Donc ils ont de moins en moins de quoi se nourrir. Donc du coup, l'hirondelle, c'est il y a eu très clairement des démonstrations dans Nature. Il y a en 2014, on a très bien mis en évidence le lien des pesticides, notamment des néonicotinoïdes, l'imidoclopride, je ne sais jamais le dire, sur le déclin des hirondelles. C'était l'espèce la plus touchée.
On va continuer à parler de la migration des oiseaux. Si vous, chez vous, vous avez envie d'apporter votre témoignage, n'hésitez pas, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter. La Terre au carré.
Mais avant que l'on reparle de migration, Maxime Zucker, vous qui co-signez un livre pour les enfants, Écoute les oiseaux, je vous propose que l'on écoute ensemble une nouvelle diffusion de la chronique Camille Passauvert de Camille Cronier. Le 2 octobre, elle racontait à Mathieu Vidard comment une école maternelle sensibilise les plus petits à l'écologie. L'école Gustave Roynet dans le 18e arrondissement de Paris qui a transformé son toit en immense jardin. Il y a un figuier, des fraises, des tomates, des concombres, des roses et tout au bout, un très grand bac sur lequel sont penchés de tout petits enfants.
J'ai 5 ans.
Qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Je suis en train de taper la terre parce que ça doit mettre bien. On est en train de faire du terreau. Et mélanger avec des compostes.
Alors tous ces jardiniers ont leur pelle, leur râteau, aussi mini queue, ou plongent directement leurs mains. Toi, ça t'embête pas de mettre les mains dans la terre ?
Non, mais la terre c'est pas sale.
Non, parce que c'est tout mou.
Tiens, regarde, il y a un petit cloporte là-bas.
Attends, je peux le prendre.
L'écrase pas, hein.
Il y a un bébé cloporte.
Picoplore.
C'est pas un escargot, c'est un asticot.
Qu'est-ce que c'est ça ?
C'est un ver de terre.
Et oui, ils sont à fond sur les petites bestioles, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Avant, j'ai tué les insectes parce que j'avais peur, mais après j'ai compris qu'il fallait pas les tuer parce que si tu n'embêtes pas les insectes, bah ils t'embêtent pas. Ils ont besoin de vivre, il faut prendre soin d'eux. Parce qu'ils sont plus petits que nous.
Voilà, un discours écolo et plein de bon sens dès la maternelle.
Allez, tu verses ? Bravo !
Et c'est Michèle, enseignante de l'école à la retraite, qui aide à les sensibiliser avec son mari Bruno.
Ce qui leur manque le plus, c'est la notion de temps, c'est ce qu'on travaille en maternelle, c'est-à-dire qu'on est en train de leur expliquer que ce qu'on fait là, on ne pourra le planter qu'au printemps. Pour eux, c'est encore très, très abstrait.
Mais ils comprennent le côté climat, écologie, planète ?
Oui.
Mais c'est sur eux qu'il faut compter, hein. Nous, c'est fini, nous, c'est passé. On vous laisse une drôle de planète, mais bon, c'est à eux de jouer maintenant.
Alors, ces enfants ont-ils vraiment une conscience écologique, même s'ils ne connaissent pas le mot écologie ? Écoutez plutôt, attention, c'est une séquence mignon.
Il faut protéger la terre parce que
On adore notre planète.
Sinon, on vit pas si la planète elle est morte.
Moi, j'ai pas vu la planète.
La planète, c'est là où on vit.
Bah oui, c'est ça la planète.
Si on protège pas la planète, bah la planète, elle va pas être en forme. Bah en fait, la planète, elle va être détruite. Et si on jette des bouteilles par terre, bah ça pollue la terre et c'est pas bien.
Ah, je vous avais prévenu. Alors, c'est en leur faisant découvrir des choses qu'ils aiment, hein, on en parlait, qu'ils sont réceptifs. Le positif, élément indispensable pour la directrice de l'école, Élise Rébeau.
Ça va pas être des notions ni de collapsologie, ni voilà de choses dramatiques. On va rester sur des choses très simples. Un vrai plaisir, c'est ça qui fait que l'enfant après va se souvenir de tout ça, des étapes, et j'espère être un éco-citoyen.
Un peu comme elle qui a sur son bureau, par-dessus la paperasse, le potager facile, hein, c'est un livre, ou son vélo appuyé contre le mur. Alors oui, on peut y voir le cliché ultime des bobos parisiens. Sachez quand même que l'école est classée REP+, hein, les établissements les plus en difficulté, avec certains élèves dont les parents pensent à se nourrir tout court avant de choisir quinoa ou boulgour. C'est donc aussi, explique cette fois la maîtresse, une affaire de transmission, mais dans le sens enfant-adulte.
Ce qu'on essaye de faire justement, c'est de sensibiliser les petits pour qu'eux-mêmes sensibilisent leurs parents.
On va aller voir s'il n'y aurait pas des petites fraises ou des petites tomates cerises.
On a besoin de planter des légumes, ça fait des vitamines.
Ils ont bien retenu. Allez, le dernier échange que je voulais vous faire entendre, écoutez. Est-ce que tu crois qu'elle va bien, la planète, aujourd'hui ?
Non, parce qu'il pleut aujourd'hui.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va lui laisser quand même un peu le temps pour comprendre. Ces Greta en herbe sont déjà bien avancées à leur âge, bien plus, en tout cas, que certains adultes.
La chronique de Camille Cronier à réécouter sur franceinter.fr. Maxime Zouka, pourquoi avoir eu envie de vous adresser aux enfants dans ce livre « Écoute les oiseaux » aux éditions Albin Michel Jeunesse ?
S'adresse aux enfants ou aux parents, hein, les deux. Hein. Pour moi, il y a évidemment les adultes de demain. Il y a un intérêt à les sensibiliser, mais je pense que tout le monde la peut créer. Moi, mon envie, c'est plutôt d'aider à recréer un lien émotionnel avec la nature. C'est par là, à mon avis, qu'on peut le mieux recommencer la protection qui va être nécessaire dans les années à venir.
L'idée, c'est de reconnaître les chants des oiseaux.
Et voilà, et cette reconnexion, elle passe par une petite connaissance. Et là, on fait, avec une application mobile, bouger et chanter les oiseaux. Donc, c'est très mignon, ça plaît beaucoup. Donc, ça crée un petit lien comme ça. On a notre mésange qui chante. Et une fois qu'on s'est approprié ce paysage sonore qui nous entoure en ville, dans les parcs, et qu'on sait que là, c'est une mésange qui chante, que là, c'est un rouge-gorge, on voit vraiment l'environnement différemment. Et en fait, on peut plus supporter sa destruction une fois qu'on le voit. C'est quand on le voit pas qu'on s'en fiche.
Et en plus, après, on peut apprendre à siffler comme les oiseaux. Vos questions sur la migration des oiseaux dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au Carré et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « L'attaque ». Psychosomatique, bouffée délirante de chaleur. Le trio Junior sur France Inter. Ah bah d'accord. Nouvel album attendu pour février prochain.
La Terre au carré. Le magazine de l'environnement. Élodie Font sur France Inter.
Notre invité aujourd'hui, ce 1er janvier 2020, c'est Maxime Zouka, ornithologue et aussi chargé de mission naturaliste à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, avec qui l'on parle depuis tout à l'heure de la migration des oiseaux. Philippe nous dit, sur l'application France Inter, au sujet du manque d'insectes pour les migrateurs, on en parlait tout à l'heure, n'est-il pas envisageable de cultiver des insectes et de les relâcher là où les migrateurs se posent, un petit peu comme les bombes vertes pour faire pousser des végétaux? Maxime Zouka.
Je pense qu'il s'agirait d'une fausse bonne idée.
Ah bon?
Oui.
Pourquoi?
Je pense qu'il est beaucoup plus, à mon avis, efficace de simplement laisser la nature se reconstituer, se réorganiser un petit peu tranquillement dans tout un tas d'endroits, simplement arrêter de la massacrer, de dépendre des taux des poisons à peu près partout. Et puis les insectes reviendront assez vite. Il y a vraiment, là où l'espoir est fort quand même, c'est que la capacité de résilience est très élevée. Hein. Et dès qu'on laisse tranquille un petit endroit, bah, ça redevient riche très vite. Et puis arrêter d'aménager le territoire partout et notamment le long des estuaires, le long des côtes, parce que c'est là aussi qu'on a des sites cruciaux pour des oiseaux migrateurs qui ne s'arrêtent qu'à un ou deux endroits pendant toute leur migration. Et si ce site est détruit ou en tout cas abîmé, c'est fini, la population chute.
C'est-à-dire que sur 5000 ou 6000 kilomètres, ils ne vont s'arrêter qu'une ou deux fois.
Les oiseaux d'eau, les limicoles font ça, oui, tout à fait. Et puis pour les petits oiseaux qui vont s'arrêter très fréquemment, Il leur faut simplement des endroits avec des buissons, avec des milieux humides. Donc les insectes qui vont avec, les insectes pondent dans les zones humides. Il faut des zones humides en fait. Il faut pas réintroduire des insectes s'il y a pas les habitats qui correspondent à ces insectes. Et puis on a joué à réintroduire des insectes, par exemple même en tant qu'auxiliaire pour l'agriculture. Vous savez, les coccinelles qu'on a relâchées pour les pucerons. Bon, ben on a relâché des coccinelles asiatiques parce que elles étaient plus faciles à élever. Résultat, maintenant on est une compétition avec l'espèce de coccinelles locales. Donc bon, jusque-là, les quelques tentatives comme ça n'ont pas été couronnées de succès.
Ça doit être très très fatigant pour les oiseaux de migrer 5-6 000 kilomètres en s'arrêtant une fois, deux fois, trois fois.
Non, c'est tout à fait.
C'est une débauche d'énergie assez dingue.
Et c'est pour ça, en fait, la plupart de ces oiseaux qui font de très longues étapes vont doubler leur masse presque hein, pendant leur long halte. On parlait tout à l'heure des barges en mer des Wadden. Il y a même des barges en Alaska qui vont faire 10 000 km, 11 000 km d'une seule traite jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et donc là, pareil, elles doublent leur poids et tout est millimétré. Si jamais les vents portants ne sont pas bons, ça passe pas. Et typiquement, il y a une grande étape pour la plupart des oiseaux migrateurs. Vous parliez de fatigue, c'est celle de la traversée du Sahara, 2 000 km sans pouvoir se nourrir. Et là aussi, c'est pour ça que les oiseaux partent en bonne santé, en bonne condition physique d'Afrique pour passer ce grand obstacle qu'est le Sahara. Et en plus, qu'il y ait des vents arrière, des vents portants. Si jamais pendant un mois ils se retrouvent avec des vents de face dans le Sahara comme on a eu en 2018, les oiseaux arrivent en retard et on a une grande partie des individus qui meurent en route.
Nous sommes en ligne avec Françoise qui nous appelle de Corse. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Votre question pour Maxime Zouka.
Alors ma question, c'est que j'habite dans la montagne corse, un tout petit village. On n'a pas de pollution, pas d'agriculture, c'est pas bétonné. C'est la nature sauvage.
Vous avez de la chance.
Et on n'a plus d'oiseaux, on n'a plus d'anguilles, on n'a plus de batraciens, on n'a plus d'insectes. Pourquoi ici?
Pourquoi ici aussi?
Ouais, oui. Pourquoi ici aussi? Toutes les populations sont liées entre elles, donc même si dans certains espaces on a l'impression que rien n'a changé, déjà c'est pas forcément si évident. Il y a peut-être des petites pratiques qui vous échappe. Alors, je ne sais pas quelle est la surface de nature en Corse. J'ai tendance à penser que c'est effectivement élevé, mais il peut y avoir des petites pratiques agricoles ou autres anciennes qui persistent avec des polluants, etc. Mais bon, c'est surtout qu'on a on a des choses qui vont se passer sur l'aire d'hivernage des oiseaux, par exemple. Ailleurs en Corse, des processus de colonisation. En fait, les populations animales fonctionne par immigration et migration. Et donc si jamais il n'y a pas de source venant d'ailleurs pour reconstituer, pour renouveler une population, même sur des endroits préservés, ça va pas forcément tenir très longtemps. Il va y avoir simplement une petite population consanguine qui va être soumise à des aléas assez rapides. Donc voilà, c'est compliqué de de regarder uniquement ce qui se passe à l'échelle d'un seul endroit. C'est,
oui, parce que tout est lié,
tout est relativement
toutes les espèces sont liées entre
voilà,
elles.
Pour votre cas particulier en Corse, je ne saurais pas répondre plus précisément. Mais...
On a plusieurs questions sur justement certaines espèces. Par exemple, Claudie, par email, qui nous dit « Est-ce que la sédentarisation des oies bernaches est une conséquence du dérèglement climatique ?»
Alors, je pense qu'elle parle des oies cendrées plus que des oies bernaches, parce que les... ah non, alors ok, je pense qu'elle parle des bernaches du Canada qu'on a en France, mais qui sont des espèces qui ont été introduites d'Amérique du Nord, donc elles ne se sont pas vraiment sédentarisées, c'est juste des espèces qu'on a leur relâchées là et qui font très jolies dans les parcs et qui maintenant vivent à l'état sauvage. Mais on a quelques oies qui se sont sédentarisées aux Pays-Bas, par exemple, mais c'est l'inverse, elles sont restées sur leur site d'hivernage parce qu'il y avait de quoi se nourrir. Mais bon, prenons d'autres exemples, parce qu'il y a des oiseaux qui sédentarisent, effectivement. Mmh. Et là, oui, c'est une conséquence du changement climatique. En fait, il y a un moment où il devient plus avantageux de rester sur place que de partir en migration, parce que la migration, on vient d'en parler, a un coût très fort en termes de survie, des dépenses énergétiques, mais le risque de rester en hiver et d'avoir un hiver très froid présente aussi un coût en termes de survie. Mais si les hivers plus froids deviennent rarissimes, ce qui commence à être le cas en France, alors il devient beaucoup plus avantageux de rester hiverner sur place et de s'épargner le coût de la migration, en plus d'être le premier présent sur le site pour défendre un territoire de qualité au printemps. Donc il y a énormément d'avantages. Mais un hiver froid, bam, tous les oiseaux qui ont pris cette décision
donc
meurent.
C'est quand même jouer
donc
à la roulette
encore,
russe.
Voilà, c'est encore un quelque chose de risqué. Mais pour certaines espèces qui vont bénéficier, par exemple, d'aliments en permanence sur les décharges ou alors dans les jardins où les gens nourrissent les oiseaux, ça peut induire une sédentarité chez des espèces qui avant avaient plus tendance à migrer, rendre plus avantageux en tout cas cette sédentarité. Donc voilà, on l'observe. Mais ce qu'on observe le plus, c'est un glissement vers le nord des aires d'hivernage.
Jean-Michel, par mail, nous parle des satellites qui sont visibles dans le ciel. Il nous dit qu'il y en aura bientôt plus que d'étoiles visibles à l'œil nu. Ces satellites dans le ciel nocturne auront-ils un impact sur les oiseaux migrateurs? Plus généralement, Maxime Zouka, ce que ça pose comme question, c'est comment les oiseaux migrateurs se repèrent dans le ciel?
Alors, effectivement, la plupart des oiseaux migrateurs migrent la nuit. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. Et donc, le ciel nocturne est utilisé pour s'orienter. Ils utilisent toute une partie du ciel située autour de l'étoile polaire. Donc, c'est toute une série d'étoiles. Je ne pense pas que l'ajout de satellites les perturbe du tout. Honnêtement, j'en doute fort. Et le principal repère externe que les oiseaux utilisent quand même pour s'orienter, c'est le champ magnétique.
Le champ magnétique.
Oui. Et en particulier, c'est l'inclinaison des lignes de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique vont sortir des pôles perpendiculairement à la surface terrestre et puis vont courir tout au long de la surface terrestre. Elles sont parallèles à la Terre, à l'équateur, et puis elles rentrent par le pôle sud. Et donc, cet angle d'inclinaison des lignes de champ magnétique, les oiseaux l'aperçoivent. On a même identifié les récepteurs dans leur rétine. C'est presque comme s'ils la voyaient. Donc c'est un sens qui nous est complètement étranger, même si on a aussi des récepteurs magnétiques dans notre corps. Et clairement, c'est ce qui est le plus utilisé pour s'orienter davantage
et
que les étoiles.
Et quand ils migrent comme ça tous ensemble, est-ce qu'ils suivent un leader parmi les oiseaux migrateurs ou est-ce qu'ils se relaient entre eux?
Alors, la plupart des oiseaux migrateurs migrent seuls et s'orientent avec un programme génétique interne, endogène. Mais certaines espèces ont une migration culturelle, les oies, les grues, et donc c'est les adultes qui vont apprendre à leurs jeunes la direction de migration et les endroits où s'arrêter, et là ils migrent en groupe, et effectivement il y a cette formation, ces vols en formation qu'on a assez en tête quand on parle d'oiseaux migrateurs, avec un individu devant qui va faire l'effet peloton de cyclistes, une économie d'énergie à ceux qui sont derrière, et là effectivement ils alternent régulièrement leur espace pour économiser chacun.
Et ce qui donne l'impression d'une nuée, parce qu'il y a comme ça des espèces où ils sont énormément.
Comme les étourneaux, par exemple, oui,
bouger,
c'est encore autre chose. Ouais. Alors là, les nuées, en plus, c'est une protection face aux prédateurs. Quand il y a énormément d'individus ensemble, la probabilité pour un individu d'être tué par un prédateur est énormément plus faible.
Et c'est comme si tous ensemble, ils se donnaient un rendez-vous chaque année, au même endroit, même heure.
Et les étourneaux, ça a été modélisé par des mathématiciens qui sont aperçus que chaque oiseau suivait en moyenne 7 oiseaux pour rester coordonné dans leur vol.
Merci beaucoup Maxime Zouka.
Avec plaisir.
Dans quelques instants, juste après les infos, le feuilleton de la semaine, un monde qui fond avec aujourd'hui des pêcheurs groenlandais.
La Terre au carré.
La Terre au carré continue jusqu'à 14h30 sur France Inter avec, dans un instant, vos solutions pour la planète. Nous irons en Guadeloupe, nous préoccuper des berges des rivières qui sont encore beaucoup trop bétonnées. L'invité découverte, en fin d'émission, nous fera voyager jusqu'en Amazonie, en plein cœur de la forêt. Une forêt qui souffre et des habitants qui pleurent. La géographe et éditrice Stéphanie de Bussière viendra nous apporter deux livres qui traitent de l'Amazonie différemment. Mais pour le moment, nous retrouvons le journaliste Guy Vanctil pour sa série de reportages sur un monde qui fond. Aujourd'hui, il nous emmène au Groenland où les pêcheurs, figurez-vous, profitent du dérèglement climatique. Ils retrouvent aujourd'hui dans leur filet des variétés qui ne remontaient pas jusqu'à eux, comme le maquereau ou le hareng. Même les chasseurs en profitent. Moins de glace égale plus d'herbe et donc plus à manger pour des rennes plus gras et plus nombreux. Cette année, tous les quotas de chasse ont été levés. Mais là-bas, au Groenland, ils s'inquiètent pour les restes du monde.
Half of Greenland's ice sheet began melting this week.
Les glaciers du Groenland, mis à rude épreuve avec les températures caniculaires entraînant l'épisode de fonte de glace le plus important depuis 1950.
En 30 ans, les océans se sont réchauffés de près de 2 degrés.
Quelles seront les conséquences sur le poisson?
À cette allure, peut-on s'attendre à une disparition totale des poissons?
Le réchauffement climatique peut-il nous priver de poissons et priver les pêcheurs de revenus?
C'est possible.
Cela pourrait sembler anecdotique, mais la présence de cette morue ici inquiète les scientifiques.
We are not poor innocent Eskimos, so we know what's going on around our world, so we will adapt.
Nous ne sommes pas de pauvres innocents petits Esquimaux. On sait très bien ce qui se passe dans le reste du monde et on va s'y adapter.
On est dans le plein centre de Nuuk là.
Oui.
Il y a une mamie qui est assise sur sa chaise et qui vend des gros sacs remplis de petites baies sauvages que tout le monde cueille en ce moment dans les collines tout autour de Nuuk.
Oui. Ils sont partout maintenant.
Et là c'est quoi? Ça s'appelle comment? Kala?
Kala Liar. Ça veut dire le petit Groenlandais.
Le petit Groenlandais?
Oui, sur le marché.
Et là, c'est une toute petite marché, c'est une petite pièce. Il y a les vieux messieurs et les vieilles dames là, qui sont assis à côté. Et alors, devant moi, juste devant, je vois une grosse scie couverte de sang.
C'est du renne.
Ah, du renne.
C'est la saison aussi pour le renne.
Et là, c'est quoi, monsieur?
Ça aussi, pas d'autonique cochon.
Baleine.
Des steaks de baleine.
Steak de baleine.
Et là-bas, c'est quoi, tilbud?
Tilbud, c'est du phoque.
Et on voit des bouts de poils là encore qui sont là.
Oui, c'est la queue du phoque. Et le foie, oui.
Qui se mange cru.
Oui.
Et de l'autre côté, là, il y a des poissons, mais alors c'est gigantesque, des têtes.
Halibut, notamment.
Halibut, cabillaud. Et il ouvre la bouche toute baveuse.
Merci.
Merci beaucoup, et il fait parler le poisson. Est-ce que c'est vrai, messieurs, que maintenant, avec le réchauffement climatique, on a une plus grande variété de poissons ici au Groenland?
Oui.
Une étude canadienne le confirme. Depuis 40 ans, les poissons fuient les eaux de plus en plus chaudes vers le nord. Dans le futur, les poissons aimant les eaux froides auront pratiquement disparu des zones de pêche habituelles.
Dans l'Arctique, le réchauffement climatique est déjà bien perceptible. Dans ces eaux froides, certains poissons non habituels dans cette région ont fait leur apparition.
Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont contents du changement climatique. Et voilà, dans le port de pêche de Nuuk, on est avec M. Johannes.
Akapia.
Dit Akapia.
Akapia.
Akapia, un des aînés des pêcheurs, et qui nous propose d'aller faire un tour dans sa petite barque de pêche, là, qui sent très très fort le poisson, pour nous montrer à quel point les eaux du Groenland sont poissonneuses, et à quel point, paradoxalement, le réchauffement climatique fait l'affaire des pêcheurs du coin. Rappelons-le, plus de 93% des ressources du pays proviennent de la pêche. Et là, il est 8h du matin. Alors, on est arrivé sur votre point de pêche. Voilà. On pêche la ligne ici. Un gros plomb. Long d'un long fil très épais. Et là, il est en train de... Je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de le tirer. Hein? Comment ça? Vous venez à peine de poser la ligne et déjà au sort de l'hameçon, il y a un énorme poisson qui sort. C'est quoi ça comme poisson?
Cabillaud.
Un cabillaud, hop. Mais un cabillaud qui fait la taille de mon avant-bras.
C'est vraiment impressionnant, là. Moi, je pensais qu'on allait se poser, commencer à discuter et tout. Et vous mettez votre ligne, hop, on descend. Il agite un peu avec le bras sa ligne. Et ça y est, il recommence à tirer. Un autre poisson. Hop, un troisième poisson.
Ils sont beaux, quand même.
4. Oh, il est gros, celui-là. 5. Et de 6. C'est-à-dire que 6 hameçons, 6 prises en moins d'une minute. C'est la pêche miraculeuse. Et alors, c'est toujours aussi facile, la pêche, ici. Et hop, encore un poisson pendant qu'on parle. Là, ça s'enchaîne. Là, c'est à la chaîne et à la ligne. Johannes, je savais pas que c'était aussi facile, moi, la pêche ici. Vous savez, nous, en France, on a toujours les images du travail de la mer qui est difficile et tout ça. Mais là, ça a l'air facile comme tout.
Yeah, yeah. I'm glad every time I can get so many short time.
Vous êtes toujours aussi heureux d'en attraper autant à chaque fois.
Yeah, I'm more fish when it's warming on the water.
Ouais, il y a plus de poissons dans l'eau avec le réchauffement. Donc en fait, la fonte des glaces, le réchauffement des mers, pour vous autres, les pêcheurs groenlandais, c'est plutôt une bonne chose, aussi absurde que ça puisse paraître.
Excuse me, I'm laughing.
Excusez-moi de rire.
I mean it for the community or the other lands. So,
c'est pour les autres pays et pour les autres communautés que vous inquiétez.
Demain, suite et fin de ce feuilleton signé Guy Vanctil sur Un monde qui fond.
France Inter, la Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Bonjour André Evette.
Bonjour.
Meilleurs vœux.
Merci, meilleurs vœux à vous et à Radio France.
Oui, vous êtes chercheur en ingénierie écologique et expert en génie végétal et vous travaillez sur un projet très intéressant, son nom, Protégé en Guadeloupe. Protégé, d'accord, mais protégé quoi et protégé qui?
Alors, le projet Protégé vise à protéger les biens et les personnes, tout en conservant la biodiversité. Il s'agit de développer des techniques de génie végétal pour protéger les berges du cours d'eau de l'érosion. Donc le génie végétal qu'on va utiliser, c'est l'utilisation de végétaux vivants pour protéger les berges, l'utilisation des propriétés mécaniques des végétaux vivants pour protéger les berges, en lieu et place du génie civil, souvent d'enrochements ou de béton.
Ça veut dire qu'à la place de mettre du béton sur les berges, on met plutôt des arbres, si je caricature.
Voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'utiliser en fait les modèles fonctionnels autour, d'utiliser les modèles naturels qui fonctionnent, que l'on peut observer ailleurs, là où la végétation, avec ses racines et ses tiges, arrive à tenir les berges. Donc on va copier ces modèles naturels pour les utiliser pour protéger les infrastructures humaines. Et en cela, on copie les modèles naturels, on appelle ça donc des solutions fondées sur la nature.
Donc c'est gommer la présence de l'homme, non?
Quelque part, c'est un peu réintroduire la végétation auprès de l'homme. On sait aujourd'hui que la végétation, les plantes ont un rôle important pour la santé physique et mentale des êtres humains. Donc c'est une façon de réintroduire de la vie, tout en assurant les fonctions de protection des biens et personnes qu'on recherche et qui sont fondamentales le long des cours d'eau.
Donc le projet Protégé en Guadeloupe, il sert à réhabiliter les berges des rivières. Elles ressemblent à quoi les berges des rivières en Guadeloupe en ce moment?
Alors sur la partie aval des cours d'eau en Guadeloupe, on a eu beaucoup d'urbanisation. On a eu beaucoup de maisons qui se sont construites tout près de l'eau. Du coup, on a beaucoup d'enrochements et aussi pas mal d'enrochements bétonnés. Et donc on a quand même des berges qui sont relativement pollué, avec souvent envahi par des espèces exotiques. Sur les espaces qu'on a échantillonnés, on a trouvé 75% des berges qui étaient envahies par des espèces exotiques. Et puis, parmi toutes les espèces...
Qu'est-ce que vous entendez par espèces exotiques?
Alors, des espèces exotiques, c'est des espèces qui viennent d'autres endroits, qui ne sont pas propres à la Guadeloupe, qui arrivent de l'extérieur. Il faut savoir que aux Antilles, et notamment en Guadeloupe, on a des points chauds, des hotspots de biodiversité, avec beaucoup d'espèces endémiques, des espèces qui n'existent que là. On a plus de 1700 espèces, et que cette flore est menacée. On estime à peu près que 15% des espèces sont menacées. et c'est une flore qui est très riche. Donc l'idée aussi du projet protégé, c'est de protéger et de réintroduire ces espèces, de favoriser les espèces locales au détriment d'espèces exotiques qui viennent menacer la biodiversité de ces îles.
Et quand vous réintroduisez comme ça des plantes, donc vous faites en sorte qu'elles soient locales, quelles sont les autres caractéristiques de ces plantes que vous choisissez ?
Alors, ces plantes, elles doivent être locales effectivement, mais elles doivent aussi remplir des fonctions de protection contre l'érosion. Donc on veut des plantes qui puissent à la fois se bouturer, se multiplier végétativement, parce que c'est plus facile. Donc on utilise un moignon, une petite branche, un moignon d'arbre, et puis ces capacités extraordinaires de reprise de la végétation vont permettre qu'à partir d'une tige, on va refaire un arbre. On veut aussi des espèces qui se multiplient rapidement, hein, qui grandissent rapidement, parce qu'il s'agit de bien pouvoir protéger les berges. Et puis on veut aussi des systèmes racinaires qui soient très développés pour que ça fixe la berge.
La Guadeloupe, c'est un espace qui est menacé régulièrement par des cyclones. Et cette idée, ce programme protégé, c'est aussi ça. C'est aussi protéger la Guadeloupe de ces événements cycloniques. En tout cas, mieux protéger les habitations qu'il y a autour.
Alors oui, c'est un projet qui est financé par l'Agence française pour la biodiversité et par l'Europe, par le FEDER. Et ce projet s'inscrit aussi dans le cadre du changement climatique et du développement, voilà, et avec des menaces qui vont venir, donc il y a les qui sont déjà là et qui peuvent se développer. Donc d'un côté, on va avoir des sécheresses plus intenses, a priori, que le changement climatique, et puis on peut avoir des épisodes pluvieux plus intenses. Et c'est vrai que les contraintes mécaniques qu'on rencontre, les contraintes de crue qu'on rencontre dans les Antilles, et notamment en Guadeloupe, avec les pluies diluviennes qui, à l'heure de cyclones, font qu'on a des débits monstrueux et des transports solides monstrueux. Donc, il faut arriver à adapter ces techniques à ces espaces particuliers qui rencontrent des contraintes très particulières.
Pour plus d'infos sur ce projet protégé en Guadeloupe, on va vous mettre les coordonnées de l'équipe sur franceinter.fr. Merci beaucoup, André Evette.
Merci à vous.
Si vous aussi vous êtes à l'origine d'une initiative pour la planète dont vous voulez nous parler, ou si vous avez besoin d'aide pour monter un projet, on attend toutes vos idées sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au carré. Dans un instant, nous partons sac sur le dos en Amazonie avec notre invitée découverte, la géographe et éditrice Stéphanie de Bussière. Like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bike. Pressing on a gas, supernova for a night light. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for BT. Searching for a deity, now you wanna see it free. Now you wanna see it free, let you see it through your piece. Tell me what your life like, turn it down a bright light. Driving with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the fool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on a text though, nothing else next though. Not another word, let a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really want to rest so. Man, it's really lifelike, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like. Man. You know it's like somebody only close to could get you like off your. I be on my. I woke up this morning, I said my prayers, I'm all doing good. I try to talk to my dad, get him some advice. He starts spazzing on me. I start spazzing back. He said they ain't Christ-like. I said. Le cri de Kanye West, vous pouvez essayer chez vous, Follow God, avec un clip où l'on voit son père. Vous écoutez France Inter.
La Terre au carré. Élodie Font.
Bonjour et bonne année Stéphanie de Bussière.
Bonjour Élodie, merci de me recevoir.
Une résolution écolo pour 2020 ou vous avez déjà pas mal donné ces dernières années ?
Essayer de trier ses déchets
encore plus
et faire sa lessive soi-même. Ça, c'est mon défi.
Ah, c'est aussi le mien. J'ai pas encore totalement compris comment faire, alors que tout le monde me dit que c'est très simple. Vous nous emmenez à travers deux livres, l'un pour les enfants, l'autre pour tous, en voyage avec vous en Amazonie, Amazonia et Voyage en Amazonie, tous deux aux éditions Akimone, que vous avez créé et que vous dirigez. Tous deux écrits par vous, d'ailleurs, ces deux livres. Alors, avant de parler de l'Amazonie, drôle de parcours qu'est le vôtre, Stéphanie de Bussière, puisque vous êtes géographe à l'origine.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a emmené jusqu'à nous aujourd'hui?
Alors, je vais essayer d'être courte parce que c'est pas, je déteste parler de moi. La géographie, d'abord, c'était une passion que j'ai eue au lycée, qui a donc, qui s'est terminée un peu, enfin, qui a été à la Sorbonne pendant plusieurs années. Et de la Sorbonne, je suis partie au Brésil à 20 ans pour faire des recherches. Et donc, j'ai toujours gardé en moi cette année merveilleuse du Brésil à l'âge de tous les possibles. Et c'est vrai que y retourner pour ce projet Amazonia a été un énorme plaisir et puis une découverte et en même temps comme une sorte de retour aux sources finalement.
Tout part d'une rencontre pour vous ici en France. Racontez-nous.
Alors la rencontre, c'est Joelma Letaon, qui est brésilienne, qui est née en Amazonie dans le village de Caucho où je suis allée. Et cette rencontre, elle a été initiée, je dirais, par le hasard, si on peut dire, puisque je vais très souvent dans un super restaurant végétarien près de mon bureau dans le 10e, qui est Sol Semilla, qui est à Paris. Et la cuisinière était absolument géniale. On a fini par faire publier un livre ensemble. Et un jour, elle m'a dit, au fond, Stéphanie, il faut aller voir directement sur place où pousse l'acérola, la griffe de chat, le cacao, puisque finalement on est à Paris avec des petits sacs de poudre, mais on n'a aucune idée de ce que c'est, voilà.
L'arbre, en fait.
Exactement.
À quoi ça ressemble.
Oui, ouais, tout à fait.
Et donc vous vous dites, allez, partons en Amazonie. Vous l'emmenez avec vous?
Alors c'est elle qui m'emmène avec elle, mais surtout ce que je veux tout de suite dire, c'est que j'étais pas seule et donc je suis partie avec Valérie Aboulker,
l'illustratrice,
qui est l'illustratrice qui avait collaboré pour le livre de cuisine en dessinant tous ces 15 super aliments,
et un photographe
voilà, Emmanuel Gazo, et donc c'était important d'avoir un témoignage aussi bien écrit que dessiné et que en photo.
Vous me disiez, juste avant, quand on était en train d'écouter Kanye West ensemble, vous me disiez que cette femme que vous avez rencontrée dans ce restaurant, Joelma, qu'elle n'était pas allée en Amazonie depuis 23 ans.
Absolument, absolument. Et en fait, il y a un film qui a été tourné en même temps que nous faisions nos recherches et on était vraiment au milieu des Indiens et on avait à côté de nous Maxime Leblanc qui a tourné Aush Aush avec Jean-Michel Lesault et eux ont suivi Joelma depuis Paris jusqu'à son village de Caucho, donc on s'est tous retrouvés et elle-même donc y retournait pour la deuxième fois je crois, mais ça, elle avait eu une grande longue interruption de 23 ans.
Stéphanie de Bussière, vous me regardez, vous me dites j'adore. Ça vous rappelle des souvenirs?
Mais oui, ça me rappelle les cérémonies, ça me rappelle ce festival, parce que au fond, on y est allé.
Vous êtes partie pour un festival.
Voilà. Il y avait ce qu'ils appellent la vivencia culturelle et spirituelle. Donc je vais, c'est un rassemblement très qui est d'abord destiné à rassembler les Indiens eux-mêmes, hein, tous les Indiens des environs, des villages qui longent la petite rivière Mourou, où se situe notre village de Caucho. Mais les Occidentaux sont très bien accueillis, puisque je peux vous en parler. Mais c'est avant tout un moment de retrouvailles entre eux et de célébration de la forêt.
La forêt, justement, c'est aussi pour elle que vous avez eu envie d'éditer ces livres, la forêt amazonienne. À quoi elle ressemble aujourd'hui, vous qui y êtes allée sur place?
Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de forêts, bien sûr. Il y a la forêt primaire, qui est vraiment peu accessible à Monsieur Tout le Monde. Il faut vraiment savoir où comment y aller, s'équiper et ce qui n'était pas vraiment notre cas puisque nous étions vraiment sur la rive de la Mourou. Et ce qui est surtout impressionnant, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu insister dans mes livres sur la déforestation et sur ce gros fléau de la destruction de la forêt, c'est que tout le long du voyage, on n'aperçoit finalement aucun arbre. C'est-à-dire que toute cette transamazonienne qu'on a empruntée pendant des heures et des heures de 4x4, elle est vierge d'arbres. C'est-à-dire que c'est comme si on était sur l'autoroute, c'est même mieux, je pense, l'autoroute A13, parce qu'il y a plus de... On remet des plantes. Cette route-là, elle est totalement...
Et du coup, on y va en 4x4.
Ouais, alors, on y va en 4x4, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Mais il y a beaucoup d'avions, il y a beaucoup de bateaux, c'est très long. On a mis 2 jours et demi pour arriver là-bas.
Parce que c'est où exactement, sur une carte?
Alors, c'est... Quand on regarde l'Amazonie en face de soi, c'est dans le sud... Est, c'est-à-dire dans l'état d'Acre, le sud-ouest, près du Pérou.
Ah, vous faites partie de ces gens qui confondent l'Est et l'Ouest?
Non, je ne devrais pas en tant que géographe, mais c'est le 1er janvier, donc j'ai une petite excuse.
Vous avez le droit. Comment les habitants sur place vivent la disparition de cette forêt dans laquelle ils habitent, ou en tout cas qu'ils côtoient, elle est tout près?
Alors, la forêt, c'est tout pour eux. C'est leur habitat, parce qu'ils y vivent, et ils en tirent du bois pour fabriquer leur maison. C'est un garde-manger extraordinaire, puisqu'on a découvert avec Valérie et Emmanuel, des plantes absolument... Enfin, il y avait un nombre... J'ai essayé dans mon livre de donner quelques noms, mais ça remplit des pages entières. C'est-à-dire qu'on parle de 16 000 types de plantes différentes. Donc et même, je me souviens aussi d'une chose, c'est que sur un hectare, nous, on a à peu près une quinzaine d'arbres différents, et ils en ont 300. Donc, pour essayer de donner...
une biodiversité incroyable.
Absolument colossale. Donc, pour eux, la forêt, c'est cet habitat, ce garde-manger, mais c'est aussi la création, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de spiritualité. Ils sont en symbiose totale avec la forêt, avec les arbres. Et puis, il y a aussi la médecine, qui est pour moi le dernier... la chose aussi très très importante quand on est en Amazonie, c'est de rencontrer les pagés, qui sont les guérisseurs, et qui utilisent toutes les plantes pour guérir les gens, pour soigner les gens.
Et donc, ils sont obligés de fuir, ou ils n'en sont pas encore là?
Alors, pas les Uniquin, les Kashinawa que j'ai rencontrés, qui sont un peuple qui a une petite terre démarquée, ce qu'on appelle la démarcation de certaines zones a permis à certaines tribus de rester à peu près au même endroit, même si eux déjà ont une histoire très très mouvementée. Mais c'est
il y
pas
en a
cas.
Environ 300 des tribus à cet endroit-là.
Oui. Alors il y a trois. Non, alors eux ils sont 800 habitants.
Oui, mais 300
oui,
tribus.
Oui, 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 tout à fait.
Ils différentes. Sont,
voilà, exactement.
Pas 300 familles. Oui, non, oui, non. Beaucoup plus que ça.
Et les Kashinawa sont 14 000, mais c'est pour vous donner une idée du par rapport aux 880 et quelques, enfin il y a à peu près 900 000 peuples indigènes au Brésil, tout confondu, pas seulement en Amazonie. Mais ce peuple-là, pour le moment, n'est pas menacé.
Stéphanie Debussière, votre espoir à travers ces deux livres, Amazonia et Voyage en Amazonie aux éditions Akinome, votre espoir c'est de sensibiliser les lecteurs à cette cause de l'Amazonie, cette cause environnementale.
Oui, c'est une vraie cause, c'est-à-dire qu'on peut très bien vivre à Paris ou en France sans avoir la moindre idée de ce que représente l'Amazonie, qui n'est pas le seul poumon de la planète. On a tendance à dire que c'est le poumon de la planète. Effectivement, c'est on peut pas le nier, mais il y a
déjà,
les océans.
Souvent, voilà. Exactement, on entend souvent dans cette émission que l'océan est le grand poumon de la
tout
planète.
À fait. Mais bon, c'est quand même la grande image qui reste. Sensibiliser, bien sûr, et puis surtout essayer de donner à tout le monde via un carnet de voyage, c'est-à-dire un livre beau, bien illustré, bien avec des belles photographies. Et puis pas un texte, j'allais dire idiot, de récits quotidiens de ce qui peut arriver. Non, mais des informations sur les types d'arbres, les types de palmiers, la diversité de leur de ce qu'ils mangent, de leur tradition, de leur rituel aussi. Et j'ai beaucoup lu et il y a énormément de choses en fait à tirer d'eux comme leçon.
Et vous, d'ailleurs, vous en avez tiré des leçons de ce voyage, Stéphanie de Bussière. Vous avez changé des choses dans votre quotidien.
Alors, au quotidien, oui, mais c'est un tout, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, à force de lire, j'allais dire Fred Vargas, mais parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais il y a des lectures peut-être... Il y a beaucoup de choses à lire, évidemment. Mais ce que j'en tire aujourd'hui, moi, c'est changer mon regard dans ce que je fais en tant qu'éditeur de livres de voyage. C'est-à-dire que j'estime qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire des livres de voyage en racontant des choses assez...
Futile.
Voilà.
Futile. Voyage en Amazonie, Amazonia, tous deux aux éditions Akimone. Très beau livre. Merci Stéphanie de Bussière. Il passe ce premier jour de l'année avec vous sur France Inter. Neudi Delbecq à la rédaction en chef de l'émission. Sophie Vaux et Clara Marlio pour la préparation des dossiers. Anna Massardier pour les réseaux sociaux. La programmation musicale Thierry Dupin. Profitez bien de cette première journée de l'année.